Bonjour. J'ai envie, si vous m'y autorisez, de, je ne dis pas de traiter avec vous de ce que représente la famille dans notre société contemporaine, mais de tourner un peu autour pendant quelques semaines. Je veux dire par là, tourner autour, non pas faire un exposé systématique et cohérent. Si je ne le fais pas, c'est pour une raison simple. Vous avez un document dont je vous ai déjà parlé et qu'il faut absolument lire. C'est la lettre que Jean-Paul II a adressée au début de l'année aux familles du monde entier. Je vous ai déjà dit combien ce texte était, à mes yeux, étonnant, parce que il représente l'enseignement de l'Église, bien sûr, tout autant, enfin, de même façon que Familiaris Consortio, l'exhortation synodale qui était parue, que le pape avait rédigée après le synode romain sur la famille, il y a quelques années. Ces textes officiels ne manquent pas. Mais la lettre de Jean-Paul II aux familles est comme une lettre personnelle que le pape aurait pris la peine d'écrire, et c'est ce qu'il a fait. Alors, ce texte, par moments, est un peu difficile. Par d'autres, est très personnel et original. Il est court. Et vraiment, il mérite d'être lu avec beaucoup d'attention. Et si vous trouvez certains passages obscurs ou peu compréhensibles à cause de la forme de la pensée ou du niveau de la pensée, eh bien, il y a un moyen extrêmement simple. Si vraiment vous n'avez pas d'autre solution, vous sautez par-dessus le passage trop difficile et puis vous passez au suivant. Mais si vous avez la chance de vous trouver avec des amis, que vous connaissiez un prêtre ou que vous connaissiez un groupe qui réfléchit aux questions familiales, eh bien mettez-vous à plusieurs. Je suis persuadé que dans vos relations, vous trouverez, à condition de chercher un peu, quelqu'un qui comprendra un peu mieux que vous, ou autrement que vous, qui comprendra certains passages, alors que vous en comprendrez d'autres. Et ainsi, vous vous aiderez à comprendre un texte qui est peut-être, par moments, je le répète, difficile, mais qui est très fort, très original, et qui prend à bras-le-corps le problème de la famille dans la situation actuelle de notre civilisation. Car le problème que le pape pose, ce ne sont pas seulement des questions particulières telles que nous avons coutume de les poser, par exemple, le divorce ou pas le divorce, tous les problèmes de la bioéthique, ou bien les problèmes démographiques, ou bien le travail de la femme, ou bien que sais-je quoi encore. Des questions qui sont chacune très importantes, mais que l'on pose presque séparément, le nez dessus. Et on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait choisir ceci ou choisir cela, ou plutôt on fonce dans une direction parce qu'on pense que c'est la meilleure, ou de façon immédiate et évidente, étant donné ce qu'on a en tête, et puis on s'aperçoit au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, que ça a des effets désastreux. Pour comprendre ces contradictions dans lesquelles nos sociétés s'empêtrent au moment où elles changent formidablement les modes de vie, eh bien, il faut avoir un point de vue d'un peu plus haut ou d'un peu plus loin. Exactement comme une photo satellite nous donne une meilleure intelligence, y compris des détails, parce qu'il place les détails dans un ensemble, il montre la cohérence du tout. Or, le point de vue que le pape adopte dans la lettre pour les familles, qui est le point de vue non seulement de la foi, mais aussi de la lumière que la foi donne sur la condition humaine, lui permet d'avoir ce surplomb où l'on comprend qu'une question particulière qui nous bouche l'horizon ne peut être résolue qu'avec les autres questions. Ce n'est pas seulement prendre de l'altitude pour se dégager des problèmes, c'est la seule manière de nous aider à les résoudre et à nous montrer le chemin. Si vous êtes perdu parce que vous ne voyez aucun repère dans une promenade en campagne ou en montagne, mais il faut bien que quelqu'un ait repéré les chemins, les pics, les vallées, les espaces infranchissables pour vous dire, soit à l'aide d'une carte, soit à l'aide d'une communication radio, soit en vous prenant par la main, écoutez, faites ce que vous voulez, si vous allez par là, eh bien vous allez tomber sur une impasse complète, vous allez tomber sur un abîme ou sur un éboulis, et là vous allez immanquablement, à 9 chances sur 10, vous casser la figure, pardonnez-moi la familiarité du mot. Alors que si vous voulez vraiment aller au terme que vous espérez, eh bien, croyez-moi, il faut prendre ce chemin-là, de ce côté-ci, et puis faire attention, parce que ce passage est difficile. Ainsi, Le pape a cet avantage du surplomb que donne la lumière de la foi sur les problèmes de la condition humaine, sur nos problèmes d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas qu'il ait raison en tout parce qu'il est le pape, mais c'est qu'il nous propose de regarder avec cette lumière de la foi, et il nous dit, il vous dit à la limite, « Bon, écoutez, je vous le dis, mais si vous voulez, venez voir, placez-vous de ce point de vue-là, essayez de comprendre. » Parce que ce point de vue-là, c'est précisément le point de vue que Dieu nous propose, vous propose. Et vous, qu'est-ce que vous risquez à essayer de comprendre comment les choses se passent ainsi? Alors, bien sûr, beaucoup de gens disent, réagissent comme des gosses colériques. « Non, je veux pas, j'en mangerai jamais, je veux pas. » Bon, bah, très bien, tant pis pour vous. Tant pis pour vous parce que, à la limite, cette espèce d'enfermement de colérique d'un certain nombre d'entre nous sur un certain nombre de questions auxquelles ils sont plus sensibles est peut-être un cri de douleur, un cri de désespoir parfois, un cri de quelqu'un qui a été blessé, ou bien quelqu'un qui s'enferme dans son égoïsme et son aveuglement. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je m'adresse aux pères et aux mères de famille, je leur dis, que faites-vous quand un de vos gosses fait une crise de ce genre? Alors, il y a plusieurs tempéraments. Il y a le tempérament autoritaire qui consiste à dire, non, méchant gosse, eh bien, il faut lui apprendre à vivre, tant pis, il sera privé de confiture tant qu'il n'aura pas piqué, tant qu'il ne sera pas revenu de sa colère ou qu'il n'aura pas fait ses excuses à sa grand-mère. Ou bien d'autres diront, ah, il faut le laisser faire. Je ne vais pas m'engager dans une querelle ou dans un débat de pédagogie à l'égard des enfants. Mais je vous signale qu'un enfant tout seul n'arrivera pas à s'en sortir. S'il n'y a pas un quelqu'un, non pas seulement qu'il soit plus vieux, mais qui comprenne ce qui lui arrive et qui aide l'enfant à se sortir de ses propres contradictions, car c'est ça la solution. Ce n'est pas que l'enfant fasse ce que veulent les parents, mais que l'enfant sorte de ses propres contradictions et arrive à comprendre qu'il ne s'en tirera jamais s'il s'obstine. Parce qu'il est en train de se heurter lui-même contre ses propres limites ou ses peurs ou ses angoisses ou ses ressentiments et il faut l'en délivrer. Alors, il y a plusieurs méthodes pour délivrer quelqu'un de ses peurs, de ses angoisses, de ses ressentiments ou de ses erreurs. Ça dépend un peu où il en est. Il faut peut-être parfois le calmer, il faut peut-être parfois patienter, il faut parfois soulager la douleur avant d'essayer de trouver le remède. Il faut parfois, avant de bouger un membre, commencer par décrisper quelqu'un, etc., que sais-je. Vous voyez bien, si vous continuez cette comparaison qui n'est pas hors du sujet, qui n'est pas absurde, vous voyez bien comment vous-même, si vous étiez dans une situation pareille, vous sentiriez bien que vous ne pouvez pas agir de la même façon avec chacun dans chacune de ces crises. Ben, il en va de même des crises les plus profondes de notre société. Alors, voilà, j'ai un peu annoncé la couleur. Du coup, si, comme j'espère, après mon plaidoyer enthousiaste, vous vous précipitez sur ce texte, que vous commenciez de le lire et que vous ayez la patience de le lire jusqu'au bout, en prenant la peine de trouver des gens avec qui en discuter pour savoir ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, et les enseignements que vous en tirez. Si vous faites ça, du coup, moi, ce que je peux faire de plus utile pour vous, ce n'est pas de lire le texte à votre place, ça ne sert à rien, ce n'est pas de gloser autour du texte, c'est un genre que je n'aime guère, puis je trouve que la pensée du pape qui vous écrit est suffisamment forte pour qu'elle vaille par elle-même, mais je ferai non pas des compléments, mais d'autres considérations qui me sont venues à l'esprit en lisant ce texte, comme des éclairages latéraux, comme des points de vue d'expérience, comme des remarques, en somme une sorte de sinon de commentaire, mais de réflexion. Vous savez, comme si nous étions ensemble après avoir lu un paragraphe et qu'on parlait librement et que brusquement l'un de vous dise « Bah, moi ça me fait penser à ceci, oh tiens j'ai observé cela et j'irai de mon côté, je ferai de même en vous faisant quelques observations ». Vous voyez bien ce que je vous propose. Donc, je vais le faire en vous parlant. Bien sûr, je n'ai pas à côté de moi mes interlocuteurs, vous qui m'écoutez, pour en discuter. Mais enfin, Je crois que je vous entends assez bien et que vous êtes assez libre avec moi pour me dire ce que vous pensez, d'une manière ou d'une autre, pour que je puisse, non pas vous donner la parole fictivement, mais bon, faire état de ce que vous ressentez, parce que vous me l'avez dit, et parce que j'essaye de vous comprendre, et que souvent je ressens profondément, moi aussi, les difficultés, et bien plus souvent les drames ou les épreuves dans lesquelles, à ce propos, vous pouvez être plongé, et en même temps les joies que vous en avez reçues. Voilà. Alors pour cette fois-ci, il me reste à peine une minute ou deux minutes pour conclure sur ce premier entretien qui est un peu un plaidoyer pour une méthode de libre propos. Voilà comment j'intitulerai, si vous voulez, ces quelques entretiens que je vais vous proposer pendant les semaines qui viennent. Libre propos autour de la famille dans le temps présent. Et la première considération que je ferai la semaine prochaine, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui me semble très éclairant, c'est de faire comprendre la différence qu'il y a entre les mœurs, j'y suis déjà venu dans une série d'entretiens précédents, entre les mœurs et l'exigence morale. Et surtout, de montrer quelle attitude il en ressort pour ceux qui sont sensibles à l'exigence morale dans la situation où nous sommes. Voilà. À la semaine prochaine, donc, et je vous dis à tous, bonne semaine et bon courage.